Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L'OM, en ce temps-là, accrochait les victoires. Montant les escaliers, la coupe aux grandes oreilles est devenue réaliste. Dans son nouveau décor, les héros semblent tristes, mais ne sont jamais morts. Notre OM, ça voulait dire on est heureux. Notre OM, et nous en avions plein les yeux. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'OM et des années Tapi, Francky, Fabien, Manu et Yolan, amis de 30 ans, vous parlent de foot, de culture et de vintage. C'est le FC Vintage. Salut Manu.
Salut les gars.
Salut Fabien.
Ouais, salut à tous.
Salut mon petit Francky.
Salut.
On avait à cœur de parler des années OM, des années Tapi, parce que c'est des années qui ont été vraiment marquantes pour nous. Cela étant, on voulait parler de Tapi, mais pas revenir sur les affaires. On n'est ni fait entrer l'accusé, ni cold case. On a préféré garder l'angle footballistique, hein, c'est ça les gars.
On est d'accord là-dessus, tu as tout à fait raison, on n'est pas là pour juger ce qui a déjà été jugé. Nous, on veut parler d'émotion, de ce qu'on a ressenti avec cette période Tapi.
Voilà, cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Alors, quand on parle de Tapi, il faut revenir un peu à la genèse. Lui, il reprend le club le 12 avril 86. Et on s'arrête un instant sur le contexte politique, parce qu'il est inédit. On est Mitterrand est président de la République. On est au démarrage de la cohabitation avec Jacques Chirac. Et Tapi, lui, cherche un club. Et c'est Gaston Defer, qui est le maire de Marseille, qui va lui demander « Bernard, ça serait bien que tu reprennes l'OM ». D'ailleurs, c'est sa femme qui, semble-t-il, va se montrer assez insistante. Et à l'époque, on a vraiment une époque qui est assez folle, quoi. Si on revient avec la DeLorean, là, et qu'on revient en arrière, c'était quoi cette époque pour vous, là, l'époque des milieux des années 80 ? C'était une période folle ?
Ah bah, c'était une période complètement dingue. T'avais dans les médias l'arrivée des radios FM, rappelons-nous de ça, c'était une sacrée révolution pour nous. L'arrivée de Canal+, l'arrivée de la 5 avec Berlusconi, des émissions assez dingues, Les Enfants du Rock,
Droit de Réponse. Des filles nues,
ouais.
Je me souviens, Chico Laro, notamment.
Moi aussi. T'avais Droit de Réponse avec Michel Pollack, des mecs alcoolisés qui se lançaient des cendriers dans la tête. Non, mais c'est vrai.
Mourouzi qui arrive en perf au JT.
Avec Marie-Laure. Avec Marie-Laure. Mais au niveau musical aussi, c'était assez dingue. T'avais Michael Jackson, Prince, Madonna, Lerita Mitsuko, Dao, Gainsbourg qui devient Gainsbourg dans les années 80. Au niveau cinéma aussi, il y avait des trucs de fou avec Retour vers le futur, Indiana Jones, les Goonies, E.T. Donc c'était...
Toute notre jeunesse.
Ouais, c'était de la folie. Et surtout, il y avait une nouveauté en France, c'est que les businessmen pouvaient devenir des vedettes. Et Tapi en faisait partie, c'était un peu le porte-étendard de ce mouvement. Je repense à des gens comme ces gars-là, Lagardère, Jean-Claude Darmon.
Oui, parce que c'est
Bouygues qui rachète TF1.
Oui, Bouygues.
C'est grâce à Tapi, parce qu'il est coaché par Tapi.
Oui, c'est ça.
Oui, parce qu'on est un peu dans la culture judéo-chrétienne, c'est-à-dire que faire de l'argent, ça reste quand même un peu tabou, c'est pas très bien. Mais tout à coup, Bernard Tapi, lui... Il va un peu évangéliser, enfin pas évangéliser, mais il va normaliser les choses. Quelque part, pour lui, il faut même avoir de l'ambition. Rappelez-vous, c'était son émission sur la Une, il fallait avoir de l'ambition. Ouais. Ouais. Alors, on est aussi dans un contexte, les gars, où la France commence à gagner.
Oui. Ah bah, début des années 80, ouais, il y a Noah qui gagne Roland-Garros en 83.
Il y a Prost.
Il y a Prost qui gagne effectivement quelques courses en Formule 1.
Ah bah, ouais. Il est même champion du monde.
Et puis on gagne l'Euro 84 et on est champion olympique aussi en football. Et ça, c'est quelque chose de complètement inédit. C'est-à-dire que la France commence à vraiment marquer son nom sur le palmarès footballistique.
Bah oui, c'est aussi deux demi-finales de Coupe du Monde. C'est aussi Serge Blanco qui est surnommé le Pelé du rugby. C'est Martin qui gagne tout en ski nautique. Donc c'est des années assez dingues au niveau du sport, quoi.
Et Jean-François Lamour qui aura une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles et qui est devenu ministre par ailleurs. Et on n'a pas parlé de Bernard Hinault, je me trompe ?
Non, c'est vrai.
On n'a pas parlé de Bernard Hinault, mais on a quand même parmi nous On a Manu, hein, qui est le spécialiste du Mont Ventoux, et qui vend super bien tout d'ailleurs. Tu te souviens, toi, de cette période de Bernard Hinault? Parce que justement, on parle de tapis, mais tapis, c'est Bernard Hinault. Enfin, moi, j'associe tout de suite tapis à Bernard Hinault.
C'est un petit peu un concours de circonstances, en fait, à l'époque, puisque Bernard Hinault, il est chez, dans la régie Renault. Et en fait, il se fait un petit peu bouger par un jeune qui arrive, en l'occurrence Laurent Fignon, et ça le vexe un peu, et il décide de claquer un peu la porte et de quitter Cyril Guimard et la régie Renault. Et il s'avère qu'à ce moment-là, il va voir, avec un dossier super bien monté, Bernard Tapie. Et Bernard Tapie, il voit aussi un intérêt, puisque à l'époque, il vient de racheter l'usine Look, sauf que Look, ils font des attaches pour les skis. Et l'usine tourne que 4 à 5 mois dans l'année. Et du coup, il s'est dit, bah, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups et de faire du cyclisme et de faire quelque chose qui fait qu'au niveau des pédales, on va faire des accroches et faire du business aussi.
Déjà, voilà. La méthode tapis est en marche.
Et il va même aller plus loin, puisque ça, c'est en 85. Et en 86, il va faire venir Greg LeMond, puisque là, il voit l'américain et le marché américain. Et pour la petite anecdote, il va lui promettre, à lui et à Bernard Hinault d'ailleurs, $1 par accroche de pédale. Qu'ils ne toucheront jamais, bien entendu, puisque il leur a quand même promis un gros salaire. Greg LeMond, pardon, excusez-moi, va passer de $100 000 3 ans à $1 million pour 3 ans avec Bernard Tapie.
Ouais, c'est des chiffres qui vont.
Déjà là, le gars, il fait rêver. J'ai revu une émission où LeMond disait, je suis rentré chez moi, j'avais de la paillette plein les yeux parce que on m'a dit $1 million sur 3 ans et il n'en revenait pas lui-même.
En parlant de chiffres, puisque je vois que tu te trompes sur les chiffres, ça me rappelle Krasuki dans les années 80 qui essayait de donner des chiffres. Il y a une vidéo qui est très bonne. 1 500 000, c'est pas la première fois que je me trompe.
Les anciens francs.
Ouais. Alors, en fait, Tapie, c'est la figure de proue des années 80, on va être clair. Enfin, on a décidé de faire cette émission parce qu'on s'est dit, Bernard Tapie, forcément, c'est quelqu'un qui a été énormément marquant. Et c'est un homme qui avait le goût du spectacle. Vous vous souvenez, quand il arrive à Marseille, comment ça se passe au départ? Vous vous rappelez un petit peu tout ça? On était un peu jeunes, mais on avait 10-11 ans. Mais est-ce que vous vous souvenez de cette période?
Ben, y a une mise en scène assez extraordinaire, hein, où il débarque à Marignane en avion, on vient le chercher, il traverse la ville sur les chapeaux de roue, il fait semblant d'être suroccupé, de pas savoir encore s'il va signer le club. Y a toute la ville qui est en ébullition autour de cette signature, parce que, comme je disais tout à l'heure, Tapie, il est déjà connu. Donc il fait rêver tout le public marseillais. Rappelons-nous que Marseille sort de 4 années de purgatoire en D2.
D2.
Et qu'il passe 2 ans en D1, où ils finissent, je crois, 17e et 12e. Enfin, le club est...
Surtout qu'il gagne rien depuis les années 70, pratiquement.
C'est ça.
Ah oui.
C'est un club qui a la ramasse sportivement.
Ils ont gagné une Coupe de France en... C'est pas 76, si je ne m'abuse, ouais, avec Marius Trésor. Mais oui, tu as raison. La grande époque de l'Olympique de Marseille, on va dire, c'est le début des années 70, avec Scoblar, avec Manusson. Forcément, ces joueurs qui sont vraiment des héros. Et d'ailleurs, Scoblar, meilleur buteur de tous les temps sur une saison, avec 44 buts. Et Keita, numéro 2. Il me semble avec 42 ou 43. C'est une année exceptionnelle en termes de buts.
C'est un club qui a l'habitude des stars. Hein. Il y a toujours eu des vedettes dans ce club. Je pense à ta cité Scoblar, Magnusson, Keita. Mais on a eu aussi Marius Trésor. On a eu Larbi Ben Barek.
Donc c'est Gersigno.
Gersigno, tout à
Paulo
fait.
César.
Paulo César.
Paulo César. Donc c'est l'arrivée de Bernard Tapie, c'est la providence, quoi.
Et le regretté Larry Cunningham, qui est décédé dans un accident de voiture. Et oui, et lui en plus, il arrive dans cette période où c'est les minots, hein, c'est cette génération un petit peu sacrée, un peu dorée. Et il arrive par un tour de pas de passe-passe, mais grâce à ce spectacle, a véritablement enflammé le Stade Vélodrome. Tu te rappelles, Fabien, un petit peu de tout cet élan, de tout ce côté flamboyant?
Bah, en fait, c'est vrai qu'il faut qu'on se rappelle aussi d'où vient, enfin, par quoi est passé Bernard Tapie, parce que quand on regarde qu'il reprend l'entreprise Vonder en 84. Pour la remettre sur pied, il était le champion de la restructuration quand même. Hein. Il était.
Il a fait pile ou face hein, ce jour-là.
Voilà, même si celle-là, il l'a mis en liquidation.
Mais vous n'avez pas compris la blague, pile.
Si, 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 ouais.
C'était mauvais, c'était très mauvais, mais vous avez le droit de le dire. Hein.
Et donc, en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui avait. C'était un homme d'affaires, un très grand homme d'affaires. Et je pense que lui, il a. Pas forcément inventé, mais il a remis le marketing dans le football. Et je pense qu'il a mis, c'est tout ce qu'il a mis en place qui fait qu'il est arrivé comme ça et il a mis son empreinte directement et avec les joueurs et aussi avec le public. Parce que là, il était très fort là-dessus.
Vous savez comment il a fait ses premières pièces de monnaie? C'est à la Courneuve, en vendant des télévisions. Et en fait, dans une barre d'immeuble, il avait blessé la télévision aux familles, et il leur avait dit, voilà, je vous laisse la télévision, je vous la laisse pendant une semaine, puis je viens vous revoir, et à la fin de la semaine, vous me dites si vous la prenez. Tu penses que, évidemment, à l'époque, c'était fantastique pour certaines familles, et il s'est fait ses premières pièces comme ça. Mais, outre la méthode, il y a aussi le spectacle. Moi, je me souviens de cet écran géant au Stade Vélodrome. C'est la première fois que, en tout cas de mémoire, hein, on voyait un écran avec des enceintes flambant neuves qui tapent un son fantastique. Van Halen, la musique de Van Halen, les gars.
Show l'américaine.
Jump. Et les gars qui arrivent, les frissons qui commencent à nous envahir quand on sent cette équipe de Marseille. Le Tapie, c'est aussi un goût du spectacle, c'est-à-dire sur le terrain, mais aussi en dehors.
Bah, complètement. Tu as parlé de l'écran géant, tu as parlé des enceintes, de jump, des feux d'artifice, enfin, feux d'artifice et laser, spectacle laser en fin de match. Et puis, il y a aussi quelque chose de super important, c'est qu'il y a le mouvement ultra qui est en train de naître aussi en France, et notamment à Marseille, et que ça... je dirais, ça amplifie le décorum. Moi, je me suis toujours imaginé sortir du tunnel. À l'époque, il sortait par une trappe sur le terrain.
C'est vrai.
Et quand t'entends cette musique, les supporters, le frisson, il est garanti.
Et tout à fait. Mais alors, Manu, toi, qui je sais, est très, très, très au fait du look des footballeurs. À l'époque, ils ont la classe, les Marseillais, parce qu'ils ils arborent un très joli maillot, mais on se souvient, ils étaient tous en Copa Mondiale ou en World Cup.
Adidas,
ils avaient le cuissard. Et rappelez-vous, même nous, en tant que footballeurs, quand on a vu les cuissards arriver, on a été les premiers tordus à aller s'acheter des cuissards pour faire comme les joueurs de l'OM.
C'est clair. Ah non, ils étaient, ils en mettaient plein les yeux. Après, là, avec leur équipement Panasonic, tout scintillant, qui brillait de tous les côtés. Et puis ouais, tout en Adidas déjà à l'époque.
Alors, Francky, toi qui es un peu la caution marseillaise du groupe, autant Manu est la caution cyclisme, parce qu'on sait que c'est le roi de la pédale. Mais toi, non, ça c'est pas. Attendez, pas de problème ici quand même. Hein. Mais moi, il y a une question que je me pose, Francky. Toi qui prends l'humeur marseillaise,
ouais.
Comment ça se fait que le mariage avec Tapie ait aussi bien fonctionné avec des Marseillais qui peuvent parfois avoir des façons de fonctionner un peu différentes? Ça passe ou ça casse avec les Marseillais, hein.
Ouais, complètement. Déjà, faut se dire que Tapie, il est parisien et que il va devenir le président de l'Olympique de Marseille. Ce qui n'est pas rien, même si, l'animosité entre Paris et Marseille est factice. Hein, elle est construite dans un deuxième temps. Mais c'est quelqu'un qui s'adapte, qui sait parler populairement, mais qui sait aussi s'adresser à des strates plus importantes. Et... moi, ce que je retiens, c'est que il a fait ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il voulait remonter une équipe capable de jouer les premiers rôles en France et de jouer les premiers rôles en Europe. Et ça, forcément, quand tu connais le personnage, bah, ça a parlé aux Marseillais. Donc, ça ne pouvait que marcher. C'est une gouaille, c'est une façon de parler, c'est la tape sur l'épaule, c'est « t'as besoin de quelque chose, bah, tu m'appelles, je vais te dépanner ». Et forcément, ça fonctionne.
Et après, il a été très malin aussi, parce qu'on pourrait parler du Fossea qui il n'y a pas longtemps, a brûlé. Mais en fait, il a été capable de recréer un bateau qui a façonné Marseille, où d'ailleurs, on en parle toujours, alors que c'est plus lui le propriétaire. Mais si tu veux, les gens se sont un peu appropriés ce bateau-là aussi, et ça a créé cette ambiance avec les supporters.
Ouais, tu as raison, Fabien. Le Fossea, il a participé aussi à tout ça, parce que c'est du clinquant, en plus. Voilà.
Oui.
Il l'a emmené dans le Vieux-Port, donc forcément...
tout le monde en parlait.
Si tu veux, il pouvait pas mentir.
Oui, mais c'était un peu la caution, de Bernard Tapie pour un peu... Il a toujours quand même aimé montrer son extérieur de richesse, et
bien sûr.
Loin de moi l'idée de lui manquer de respect, mais il y avait ce côté, je montre un peu ma réussite, ce bateau qui est quand même... moi je me souviens quand j'étais minot, et je prends l'expression minot qui est une expression bien du sud, mais moi quand on m'avait parlé du Fossea, je m'attendais à un petit voilier... Mais alors, quand je l'ai vu la première fois, et en plus, il a battu un record du monde, je crois, avec, à l'époque, je ne sais plus lequel, parce que je ne suis pas expert mais je trouve qu'effectivement, le Fossea est assez représentatif de Tapie, et puis il y a eu pas mal d'histoires, pas mal d'anecdotes dans ce fameux bateau.
Surtout qu'il est quand même très très riche à l'époque, quoi. En restructurant toutes ces entreprises-là, il a fait fortune par défaut, en ayant beaucoup de d'argent, et oui, il a pu le montrer, la réussite, c'était le fin mot des années 80, donc il était effectivement très riche à ce moment-là.
Et des portes ouvertes dans le business aussi, parce que ça c'est
important. Ouais, mais je prends le parallèle, Fabien, portes ouvertes dans le business, moi je prends un monsieur comme Jean-Luc Lagardère. Moi, j'adorais cet homme. Je trouvais qu'il avait une classe. Je trouvais qu'il avait quelque chose de très paternaliste. Il reprend le Racing Paris en 1982. Mais ça prend pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un Tapie réussit à l'Olympique de Marseille et qu'un Lagardère, tout aussi intelligent dans ses stratégies, n'arrive pas à faire monter ce club ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Moi, je pense que Lagardère, c'est vraiment l'homme d'affaires qui était un petit peu loin du football. Il était vraiment businessman. Et je pense que Tapie, lui, était proche du foot. Et d'ailleurs, tu le voyais, il allait sur le terrain. Il allait. D'ailleurs, on peut même penser que des fois, il était même un petit peu l'entraîneur. Hein. Si on regarde certains, on en reparlera peut-être tout à l'heure.
Ah oui, on en reparlera parce que j'ai quelques histoires sur le sujet.
Moi, je l'ai vu faire deux jours.
Après,
il était pas trop footballeur.
Moi, ce que je pense sur le Matra, c'est que déjà, il y avait deux clubs à Paris à ce moment-là.
Et oui.
On a le PSG et le Matra qui devaient en plus partager le même stade.
Et il y a le Red Star aussi.
Et il y a le Red Star. Il y a le Red Star. Et à Paris, et c'est encore le cas aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire que le foot, c'est quelque chose parmi d'autres. Et c'est très difficile à Paris d'avoir plusieurs clubs. Ensuite, Tapie, il a vraiment mis, et il le dit lors d'une interview, le football doit être un spectacle. Et c'est ce qu'il fait, quand il achète une sono, un écran, les feux d'artifice, etc. C'est exactement ça. Et la troisième chose, c'est dans le management, c'est-à-dire qu'il a su s'entourer des meilleurs.
Eh
oui.
Il
n'a pas cherché à comprendre.
C'est ça.
Le meilleur à l'époque et la star du foot, une des stars du foot, c'est Michel Hidalgo, qui est DTN, et il va le chercher. Il prend Banid. Il va chercher Girès au Girondins de Bordeaux. Enfin, voilà, il prend les meilleurs pour devenir le meilleur.
Surtout qu'il comprend très vite beaucoup de choses. Sa faculté, elle est là. Elle comprend très, très, très vite.
Fonctionner et comment il peut monter.
Exactement.
Non, puis il tergiverse pas. Il y a cette histoire justement avec Hidalgo. Il est en train de monter l'équipe de l'OM, l'équipe de l'OM version Tapie, et il va vers Hidalgo et lui dit bon, bah maintenant c'est bien beau, mais il nous faudra un défenseur. C'est qui le meilleur défenseur du monde ? Et là, Hidalgo dit c'est Karl-Heinz Forster. Bon, il dit allez hop, on prend le jet, on va le chercher. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Hidalgo le raconte, il dit « Je vous assure que la signature de Karl-Heinz Foster, elle s'est faite comme de manière très très simple finalement. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il a aussi, cette volonté qu'il y ait du beau jeu. Il y a vraiment un beau football qui soit pratiqué, il y a une philosophie droite au but n'a jamais été aussi bien mise en avant finalement. »
Ouais, c'est vrai. Il va chercher quand même Klaus Allofs et Jean-Pierre Papin.
Oui.
C'est pas rien à l'époque. Hein. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans son sillage, il y a quand même pas mal de vedettes qui arrivent dans le championnat de France. Je pense à Francesco Liomatra, Lidbarski, Atlet, Glenn Hoddle à Monaco, Bordeaux, il y a les frères Vujović, mais je crois que c'est un petit peu plus tard.
Il y a Enzo Schifo qui arrive aussi.
Enzo Schifo.
Il y a Uwe Reinders à cette période-là. Enfin, il y a quelques internationaux assez notoires.
Ouais, c'est clair. Et du coup, ça crée un. Il bouscule et dépoussière le championnat de France en fait. Et dans son sillage, il y a pas mal d'équipes qui font de même.
Il est très opportuniste aussi. Et il essaye de récupérer comme tu disais, les plus grands joueurs. Et ça, il le fait très bien, quoi.
Il est opportuniste. Excuse-moi, Francky, mais oui. Il a aussi cette capacité à pouvoir libérer des joueurs qui sont de très bons joueurs dans des clubs significatifs. Parce que rappelez-vous à l'époque les transactions avec les Girondins de Bordeaux, avec le Paris Saint-Germain ou même avec d'autres équipes, il y avait cette capacité chez Tapie à pouvoir libérer de bons joueurs en se disant « on va créer un championnat relevé pour que finalement les gens ne s'ennuient pas et qu'on puisse avoir des affiches ».
Ouais. Je pense que je parlerai pas d'opportunisme, je parlerai plutôt de... Il veut avoir les meilleurs pour gagner le plus vite possible. Et quand on regarde les années tapis, en 6 ou 7 ans, ce qu'il fait, c'est assez exceptionnel. C'est qu'on soit Marseillais ou pas, 5 championnats de France, 2 finales de Coupe d'Europe, 2 autres... 2 demi-finales,
deux demi-finales.
C'est ça, en 7 ans. C'est assez phénoménal.
Je sais que je vais me faire tomber dessus, Francky, mais il réussit à placer Marseille sur la carte, en fait, pour certains. Pour l'Europe. Je veux dire, le fait est qu'on entend véritablement parler de l'équipe de Marseille un peu grâce à Bernard Tapie. Un peu, beaucoup.
Beaucoup, même.
Il y a une chose qui m'a aussi beaucoup marqué à l'époque, c'est que progressivement, on va avoir l'ossature de l'équipe de France qui va se dessiner. Vous vous souvenez de ça? On avait beaucoup de joueurs de l'équipe de l'Olympique de Marseille qui composaient l'équipe de France, qui d'ailleurs a aussi été peut-être un peu préjudiciable parce que l'altérité Paris-Marseille s'est aussi retrouvée dans la tunique bleue.
C'est lui qui l'a créé, ça.
L'altérité?
Le duel Paris-Marseille.
Ah ben tout à fait, enfin, c'est lui qui l'a créé en bonne intelligence avec le Paris Saint-Germain, parce qu'ils sont aussi mis d'accord sur le sujet. À l'époque, l'adversaire numéro un, c'est les Girondins de Bordeaux, et surtout son président
Claude Besse.
Caractéristique, qui est Claude Besse, qui va avoir quand même le culot d'arriver avec sa Cadillac rose, c'est assez extraordinaire. Mais quand... Les Girondins de Bordeaux ont leurs petits soucis financiers. À ce moment-là, il faut se rabattre sur un autre adversaire. Et c'est là que Tapie va taper sur le Paris Saint-Germain. Ils vont d'ailleurs se taper dans la main pour se mettre d'accord sur cette rivalité qui est une rivalité finalement qui est créée de toutes pièces.
Oui, complètement. Mais c'est là aussi la force de Tapie dans sa volonté de créer du spectacle. C'est aussi de créer de l'animosité. Ça servait à la fois au spectacle, mais ça valorisait aussi, je dirais, les résultats de l'OM. C'est-à-dire que s'il avait survolé le championnat, parce que quand on regarde les 5 championnats gagnés, il y a toujours très peu de différence. Il y a 2, 3, 4, 5, 6 points maximum en fin de saison. Et le fait que le championnat soit disputé, ça valorise complètement le parcours de champion de son équipe.
Ouais, après... Ce qui est fort de la part de Bernard Tapie, c'est que très très vite et très rapidement, il dit « Moi, je veux ramener la Coupe d'Europe à Marseille. Je veux gagner la Coupe d'Europe. » Il y a très peu de présidents aujourd'hui, pour ne pas dire pas de présidents, qui disent « Je veux gagner la Coupe d'Europe. » Et comme dit Lao Tseu, si tu sais pas où tu vas, tu risques de mettre un petit peu de temps à y arriver. Et lui, d'emblée, il savait où il voulait aller. Il voulait gagner la Coupe d'Europe.
Oui, donc c'est très clair, puisque en 2 ans, il emmène déjà l'OM en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Donc en 87-88, il perd contre l'Ajax. Et quand on connaît le palmarès des clubs français en Coupe d'Europe, qui était néant, tout simplement, la performance, elle peut paraître folle, quoi.
Oui, elle est folle. Et alors, à l'époque... les histoires d'amour finissent mal en règle générale, hein, comme dit la chanson. Mais alors, avec les entraîneurs, il a eu pas mal d'entraîneurs, pas mal de techniciens qui sont venus à l'OM. Est-ce que vous vous souvenez de certains assez marquants, ou pas d'ailleurs, qui sont venus garnir le Vélodrome?
Beckenbauer. Ouais. Beckenbauer, après il est champion du monde avec l'Allemagne. En tant que sélectionneur, et quand il arrive, bon, même s'il fait pas longtemps, mais mais il va le chercher, il va le ramener sur le banc.
Mes souvenirs, c'est Goethals. C'est vrai que c'était un homme, pour moi, il était vraiment formidable. En plus, il me faisait marrer, moi. Mais c'était très grand.
Ce qui était drôle, c'était la manière dont il écorchait les noms.
Deux fois, lui.
Jamie Vadle. Oui. Et Verkruis, il avait cette manière d'écorcher les noms.
Moi, j'ai une affection particulière pour Gérard Gilly.
Je sais que
pour
Gérard Gilly, je savais que j'allais dire ça.
Parce que c'est, il était directeur du centre de formation. En fait, son arrivée à Marseille, elle est un peu particulière, puisqu'en fait, Banni saute et Tapi demande à Hidalgo de reprendre l'équipe. Et Hidalgo, en fait, se sent plus d'être au bord du terrain et propose à Gilly de reprendre l'équipe. Et en fait, je trouvais assez dingue de voir une personne aussi discrète travailler avec quelqu'un comme Tapi. Et il n'avait pas d'expérience d'entraîneur en Division 1 à l'époque. Et je l'ai écouté sur une interview et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est que le matin, il s'est présenté à l'entraînement. Il a dit « Voilà, c'est moi qui reprends l'équipe ». Et il disait, la première journée, en fait, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire, j'étais là, mais je comprenais pas. Et il a décidé de s'appuyer sur les joueurs d'expérience en leur proposant des choses à travailler. Et il disait que il s'est notamment appuyé sur Klaus Allofs. Et c'est grâce à Klaus Allofs que Papin a énormément progressé. Ouais, j'aime bien Gilly, quoi. Je trouve qu'il est pas reconnu à sa juste valeur.
Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur le ce que tu dis. Gilly est quelqu'un qui est assez important. On peut citer d'autres d'entraîneurs. Il y a eu évidemment Gérard Banide, Franz Beckenbauer, vous en avez parlé. On a eu aussi Jean Fernandez, ouais, qui a été assez rapide. Moi, je vais vous dire, honnêtement, j'ai pas compris. Quand Jean Fernandez est arrivé à l'OM, je me suis dit, c'est pas l'entraîneur pour redorer, pour en tout cas... perdurer, pérenniser le grand OM. Il y a eu Tomislav Ivić, ouais, aussi, qui après est resté dans le giron du club pour superviser certains matchs. Et puis après, il y a eu Marc Bourrier, là, lorsqu'on arrive en 94. Et puis Henri Stambouli. Mais pour moi, il y a un homme aussi qui est important, qui est un homme proche du terrain, qui a été une jonction, une courroie super importante, c'est Jean-Pierre Bernès. Ouais. Bernès, c'est le bras droit, c'est l'homme de Tapi.
C'est son directeur général.
Oui, et c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui est déjà dans le club et qui va progressivement gravir les échelons. Et Bernès le dit. Il dit, je ne peux pas aller au restaurant, ou je ne peux pas aller voir ma fille, ou je ne peux pas aller au cinéma, parce qu'il faut que je sois disponible 24 heures sur 24 pour Tapi. À l'époque, on n'a pas les portables. Donc Bernès, c'est l'homme dévoué, le bras droit de Bernard Tapi, finalement. Et c'est vrai que pour faire un grand homme, il faut aussi, tu parlais tout à l'heure de s'entourer des meilleurs. Bernès a certainement été d'une aide précieuse pour lui à cette époque.
Ouais, c'est ce qui fait la part des grands dirigeants, c'est de savoir s'entourer de personnes compétentes et qui sont capables justement de faire ce que toi tu souhaites faire et de le faire comme il faut, quoi.
Alors, puisqu'on est sur les entraîneurs, très rapidement, puisqu'on a parlé de Beckenbauer, faut quand même que je vous raconte l'arrivée de Beckenbauer à Marseille.
Bien sûr.
parce que c'est assez drôle. Donc Bernard Tapie vient de perdre une demi-finale, la demi-finale contre Benfica.
C'est ça.
Il dit bon bah j'ai compris ce que j'ai à faire, et il comprend surtout qu'il doit avoir un nom sur le banc qui en impose. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Jean-Michel Aulas quelques années plus tard avec, en recrutant Gérard Rouillet. Et donc c'est Gérard Gilly qui va chercher Beckenbauer à l'aéroport et lui dit bah, je vais te faire visiter les installations. Donc là ils partent au centre d'entraînement de l'OM qui n'est pas encore la commanderie, et en fait l'OM n'a pas de centre. Ils partagent un stade avec la fac de sport de Marseille.
Il y a les Algeco. Les javelots qui vont dans tous les sens.
Exactement, les javelots qui vont dans tous les sens. Et là, Beckenbauer, qui est allemand, qui a joué au Bayern, qui est déjà un club très structuré, couvre les yeux en grand et qui se dit mais qu'est-ce que. Soit ils me font une blague, soit j'ai pas compris ce qu'on m'a vendu. Et c'est de là, en fait, parce qu'au départ, Beckenbauer et Gilly devaient travailler ensemble, et Gilly a tout de suite compris que ce serait pas possible avec lui, et il a préféré arrêter, quoi. Mais c'est dingue d'avoir ces résultats en partageant un terrain de foot avec des lanceurs de javelot, ça c'est pas possible, quoi.
Moi, le souvenir que j'ai de Franz Beckenbauer, alors forcément, il y en a un qui est un peu plus... lourd, et sûrement que Fabien nous en parlera tout à l'heure avec le sourire, puisque c'est la lourde défaite face à la JOCR, 4-0, qui a coûté véritablement le poste à Beckenbauer. Mais c'est, je trouve qu'à l'époque, il a fait progresser des joueurs.
Oui.
Il met Boli sur le côté droit, et tout à coup, Boli montre qu'il est autre chose qu'un défenseur central qui met des coups de savate. Il devient même capable de pouvoir alimenter en ballon les attaquants par des centres. Et je me souviens aussi d'un joueur qui avait littéralement illuminé...
Je sais à qui tu penses.
C'est Philippe Vercruis.
Ouais, je suis d'accord.
C'est Philippe Vercruis. Et Beckenbauer dit de Vercruis, c'est l'un des meilleurs numéro 10 d'Europe, ce qui est assez clairvoyant à mon sens, parce que Vercruis était vraiment un joueur magnifique. Après, peut-être que le mental, pour lui, était... pas forcément celui d'un Papin ou autre, hein. Mais puisque je parle de Beckenbauer et des adversités, les adversaires de l'OM à l'époque, on peut en parler. Quelles étaient les équipes qui pour vous pouvaient concurrencer cet OM de Tapie?
Tu avais l'AS Monaco.
Ouais.
Il y avait quand même une équipe assez impressionnante, hein. Je vous redonne quelques noms, hein. Glenn Hoddle, Marc Atley, Ettori, Sonor, Baptiste,
Rui Barros, Ramon Dias,
c'est ça, Puel, Dib, enfin
Roger Mendy, Petit,
et un de mes préférés, un de mes chouchous, un joueur d'été, Youssouf Fofana. Non, mais c'était une très 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 belle équipe. Qui aurait pu gagner elle aussi plusieurs titres. Hein.
Bah écoute, moi je pense qu'il y a aussi l'équipe d'Auxerre, mais alors c'est plutôt dans les années 90, plutôt fin des années 90, mais Auxerre a été se sont castagnés pendant surtout, quelques années.
Et il y avait surtout aussi les Girondins de Bordeaux.
Ouais. Ouais.
Il y avait surtout les Girondins de Bordeaux, avec Claude Béz aussi en tant que président un peu sulfureux, qui était rival de l'époque, quoi.
Ouais, c'est surtout qu'aux Girondins de Bordeaux, il leur fait un vilain coup. Il va chercher Alain Giresse et il va chercher Tigana. Enfin, c'est deux étendards forts.
Ah non, non, je pense. J'étais dégoûté à l'époque.
Ah bah, j'imagine.
Il y avait Nantes aussi.
Giresse et Nantes, bien sûr. Et Tigana dans la foulée, ça m'a fait mal au cœur.
Bien sûr, il y a le FC Nantes. Qu'est-ce que on peut parler du Matra, hein. Le Matra avait aussi des grands noms à l'époque, hein. Ginola, Alim Ben Mabrouk, Luis Fernandez, Francescoli, Litzbarski, Sonny Siloy. Bon, il y avait quand même du beau matériel. Et moi, j'ai pensé aussi à Montpellier.
Oui, c'est vrai.
Montpellier, en 88, ils finissent troisième à la suite d'une saison... plutôt remarquable. À l'époque, il y a quand même du beau monde aussi. T'as Roger Milia, t'as Patrick Cubains, t'as Christian Pérez.
Ouais.
Un beau groupe.
Laurent Blanc, hein.
Laurent Blanc, tout à fait, qui reste le meilleur buteur montpelliérain de l'histoire. Pascal Baïs, Franck Lucchesi, bien sûr, après...
Fabrice Divert.
Fabrice Divert, c'est après. Mais oui, il faudrait qu'on fasse un truc sur Montpellier aussi, l'époque de Montpellier, de cette équipe, que Nicolin, il va essayer de créer une équipe avec du panache, vraiment avec des joueurs. Voilà, il y a du Cantona, il y a du Paille, il y a Xvereb, il va chercher Valderrama. Bon, j'extrapole un peu sur Montpellier. Et puis, vous oubliez aussi le PSG, les gars.
Hein. Oui, c'est vrai.
Le PSG, c'est vrai. Le premier titre de Marseille en 89, il coiffe le Paris Saint-Germain avec ce magnifique but de Franck Sauzet. Et c'est un match final, en fait, finalement, me semble-t-il. C'est Marseille-Paris Saint-Germain, c'est le match décisif. Et c'est Sauzet qui met une frappe lumineuse qui permet aux Marseillais de gagner le titre. On parle un petit peu des concurrents de l'OM, mais si on parlait aussi des joueurs emblématiques de l'Olympique de Marseille à l'époque.
Enfin, sans contestation, moi.
Les joueurs tapis.
Moi, j'étais fanat de Jean-Pierre Papin, qui est maintenant l'entraîneur de Chartres. C'est très bien.
C'est vrai. Et est-ce qu'il réussit bien?
Bah écoute, là, la Nationale 2 va pas jouer, va s'arrêter. Donc, c'est une année blanche. Donc, bon. Non, mais il va s'adapter. Après, il faut du temps pour s'adapter. Hein. Alors, l'équipe a complètement changé.
Pour Jean-Pierre Papin, là, moi, je dois dire qu'il a le nez creux, tapis.
Pas tort.
Il a le nez creux parce qu'il va chercher Jean-Pierre Papin, il souffle Jean-Pierre Papin au nez de l'AS Monaco, puisqu'il a signé un pré-contrat avec l'AS Monaco. Papin, à ce moment-là, bah oui, c'est un joueur qui joue à Bruges, il met un triplé en Coupe d'Europe, c'est d'ailleurs là où on commence à vraiment connaître Jean-Pierre Papin.
Il est international, hein, il joue la Coupe du Monde 86 quand même.
Il fait sa première sélection contre l'Irlande du Nord, de Pat Jennings, qui était dans les buts, qui avait plus de 40 ans. Je me souviens, il avait un survêtement tellement il faisait froid. Et à l'époque, ils font 0-0 d'ailleurs. Et à l'époque, effectivement, il fait la Coupe du Monde. Il joue contre le Canada. Contre le Canada, il loupe tellement d'occasions que Luis Fernandez lui dit « T'aurais pu battre le record de Jules Fontaine rien que sur ce match. » Et la première année de Jean-Pierre Papin à l'Olympique de Marseille, clairement, elle est très difficile puisqu'on l'appelle JPP, j'en peux plus. Tu parles de Patator, mais à l'époque, c'est vraiment... Et moi, je me souviens, à l'époque, il loupait des trucs, mais attends, il avait quand même des Gires, des Gengini, des Blaz Sliskovic qui lui mettaient des galettes. Et alors lui, il te mettait des trucs vraiment au-delà de la tribune. Et Tapi lui a fait confiance. Il a bossé. Il s'est accroché et il est devenu ballon d'or. Et c'est vrai, Fabien, pour le coup, Papin, c'est énorme ce qu'il a fait. Ah, énorme. Oui. C'est le joueur du siècle à Marseille.
Comme tu dis, il a vraiment travaillé, un petit peu à l'image de Ronaldo maintenant. C'était un bosseur. Le mec, après les entraînements, il allait faire ses frappes, tout ça. Moi, j'adorais ses frappes croisées, là, deuxième poteau. Moi, j'en ai fait un paquet et j'en ai marqué aussi un paquet parce que ça marchait très bien. Mais c'est vrai que c'était vraiment un bosseur et moi, j'aimais bien son caractère aussi.
Hormis Papin, est-ce que vous avez d'autres joueurs comme ça un peu significatifs?
Chris Waddle.
Chris Waddle
avec ses passements de jambes là, quand on a l'impression qu'il dansait sur son côté droit et qu'il cassait des reins.
Puis jouer avec le public, c'était un vrai spectacle.
C'est un des premiers qu'on a vu, je pense, faire autant de dribbles, de choses comme ça, de passements de jambes. Je me rappelle pas avoir vu avant.
Ouais, je pense que c'est le premier. Tu as raison. Si on parle d'excellents dribbleurs, je pense qu'on peut parler de Susic, mais il avait pas cette magie comme Waddle avec le ballon. C'est-à-dire que
Waddle était capable de dribbler arrêté en fait.
Oui.
Et ça c'était nouveau ça.
À
la Garincha, ouais.
C'est extraordinaire l'histoire de Chris Waddle, puisqu'en fait, à la base, Tapi veut prendre un attaquant qui s'appelle Walsh. Ouais. Et quand il voit Walsh, il dit tout de suite « oublie ». Et il remarque Waddle et il se dit « tiens, ça pourrait être intéressant, on va prendre ce type-là ». Et ils le prennent, il coûte très 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 cher. Et quand Waddle arrive à Marseille, il arrive à l'aéroport et il y a un agent qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Il dit « Je viens jouer à Marseille. » Et l'agent lui dit « Oh, vous êtes le chanteur des Pink Floyd !» c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il n'était absolument pas connu. Il a mis un peu de temps à se faire connaître, et je crois que la première fois où véritablement il s'est fait connaître, c'est le but à Joël Batz, le but qu'il met à Joël Bad, vous savez, c'est l'espèce de lob et où il met une petite talonnade en plus pour chambrer. C'est là qu'il s'est fait véritablement connaître. Bon, il y en a d'autres.
Oui, d'autres. Bah, Dimeco, le
milieu. Ah bah oui.
Forcément, qui a été l'emblème aussi du club. Hein. C'est à la fois la fidélité, c'est l'engagement, c'est là, toutes les campagnes européennes. C'est le tacleur aussi. Hein. Il était impressionnant à ce niveau-là. Il a marqué vraiment l'histoire de ce club.
Mais bon footballeur aussi, parce qu'on voit que le côté tacleur, c'est vrai qu'il n'y allait pas de main morte, mais c'était aussi un bon footballeur. C'est l'un je ne vais pas dire rare footballeur, mais il a quand même plus de 20 sélections et il est invaincu en équipe de France. À chaque fois qu'il a joué en équipe de France, il n'a pas perdu. Ce qui fera dire d'ailleurs à Thierry Roland « Ah, si on avait eu Dimeco contre la Bulgarie
ouais, !» <c'est vrai.
rire> Enfin bon, ça c'est sûr, encore une autre histoire. Quel joueur on peut encore…
Moi j'ai un souvenir d'enfance et il n'est pas resté longtemps, mais j'avais mis son poster dans ma chambre, c'est Francescoli. Ça a été vraiment pour moi, pareil, c'est un attaquant, hein, où quelquefois il jouait milieu, mais je sais pas vraiment dire pourquoi, mais j'étais vraiment fanat de ce gars-là et il avait la classe. Il avait la classe en dedans et en dehors, je crois.
Comme Zinedine Zidane. Hein. Zidane, c'est la raison pour laquelle il appelle son fils Enzo. Hein. C'est que Francescoli, son joueur préféré. Moi, ce qui m'a toujours marqué chez Francescoli, c'est l'élasticité de ses chevilles. C'est-à-dire qu'il était, capable de pouvoir réaliser des crochets et regarder ses chevilles, c'est hallucinant quoi. Il a les chevilles élastiques.
Il disait qu'à l'entraînement, les autres joueurs, ils étaient impressionnés de ce qu'ils pouvaient faire. Hein.
C'est pas véritablement surprenant. Moi, j'avais pensé aussi à Bruno Germain.
Oui.
Qui en plus de ça, Bruno Germain, vous voyez, et aussi Casoni qui vont revenir après quand le club va un peu moins bien. Pour pouvoir prêter main forte aux équipes. Et je pensais aussi à un joueur qu'on en parle assez peu, c'est Jean-Philippe Durand. Oui. Et c'est un joueur qui est assez précieux. Et rappelez-vous du but face au Paris Saint-Germain, le but du titre en 93. Il est aussi dans la combine, là, et c'était vraiment un footballeur.
Il est du Toulon, lui aussi, je crois.
Oui, merveilleux footballeur. Alors moi, j'ai fait la liste. Je me suis fait les trois tops, les trois joueurs tops, et on en a cité deux. C'est Papin et Waddle. Et ben moi, mon troisième, c'est Fabien Barthez. Parce que Fabien Barthez, alors pour moi, je dis les trois tops de Tapie. C'est-à-dire que c'est le pif de Bernard Tapie. C'est d'avoir fait confiance à ses hommes, à son staff.
Des jeunes.
Parce qu'en fait, Marseille joue face à Toulouse, et à la fin de ce match, Goethals dit « Ce gardien, c'est le gardien de l'avenir ». Et tout de suite après, Tapie va le recruter. Et moi, je trouve que ça, c'est quand même assez fort. Et puis les flops, j'en ai trois aussi. C'est Igor Dobrovolski, Paolo Futre et Martin Vazquez, qui étaient quand même de grands footballeurs.
Ouais.
Mais ouais, ça n'a pas pris. Et alors moi, je vous avoue, Futre, je ne comprends pas.
Moi non plus.
Pour moi, je ne comprends
quoi,
pas.
Il a fait quoi, un an, même pas ? Une demi-saison ou...
Oui, il a fait un an, oui. Un an, à peine. Mais c'est incompréhensible, parce que Futre, pour nos auditeurs, ceux qui nous écoutent et qui ont le même âge que nous, mais à l'Atlético Madrid, c'est une légende.
Ah
et
oui.
Aller voir sur YouTube ce qu'était capable de faire Paolo Futre, il est deuxième du meilleur buteur en 87, du Ballon d'Or, pardon, en 87, c'est un phénomène. Enfin, quand je dis phénomène, ça fait partie des très grands joueurs.
Ouais. Et il arrive en quelle année ?
Il arrive en 94. C'est après le moment où ça devient un petit peu plus compliqué. Hein. Et Igor Dobrovolski, Tapie va le recruter par rapport à une cassette vidéo. Il passe dans le coin, ils sont en train de regarder une cassette vidéo et Tapie dit « C'est qui lui ? Dobrovolski, je le prends. » C'est ça qui est extraordinaire, vous voyez, c'est que parfois ça a pu marcher, puis parfois ça ne marche pas.
Et puis, il a pris des risques, mais effectivement, t'as toujours, dans les risques, il y a toujours des échecs, c'est normal.
Et puis, alors justement, moi j'ai mis des jokers, j'ai mis trois jokers. C'est Dragan Stojkovic, Eric Cantona et Leonardo Rodriguez. Léo Rodriguez, parce qu'il fait pas un match à l'OM finalement.
Non, alors que c'était un super joueur.
Oui. Pas de pizzeria.
Il va à Toulon, il fait une super saison.
Ah ouais, non.
À Toulon, mais la frustration, c'est de se dire pourquoi on n'a pas vu ce joueur avec l'Olympique de Marseille.
Ouais, je suis d'accord.
Dragan Stojkovic,
qui est très fort.
Un génie avec des genoux en cristal, malheureusement.
Mais techniquement très très bon.
Ah oui. Et que ces problèmes physiques auront une influence sur la finale à Paris. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Et puis Cantona, l'homme qui finalement n'a pas réussi à être dompté par Tapie, clairement.
Bah pour moi, Cantona, il fait plus partie de l'histoire d'Auxerre, mais après, oui, oui.
Bah, il n'a pas été... oui, c'est deux forts caractères. Et en plus, Cantona était dans sa ville. Et je pense que, à l'instar d'un Zidane, jouer dans sa ville, là où tu as grandi, où tu as tous tes amis, etc., ça reste compliqué. Et ça a peut-être joué aussi dans l'histoire de Cantona avec l'OM.
Bien sûr. Vos matchs marquants, vos souvenirs marquants de matchs avec l'Olympique de Marseille?
Bah écoute, moi ça va être très classique, hein, ça va être la finale en 93, avec le fameux but de Basile.
Tu y crois? Tu crois qu'ils peuvent gagner ce match?
Sincèrement, de mémoire, oui, oui, j'étais pas... quand tu as le match, tu te dis ils peuvent le faire. Après, forcément, à l'époque, Milan était quand même... largement favori, mais avec tous les joueurs qu'ils avaient. Alors en sachant que c'est marrant parce que pour l'anecdote, il y en a pas mal, parce que Jean-Pierre Papin en parlait, il y en a pas mal qui pensaient que Jean-Pierre était à l'OM à cette époque-là. Hein.
Ah oui.
Ah ouais, c'est fou. Alors moi je.
J'étais en face avec Van Basten.
Sur cette finale, en tant que supporter, j'y crois. Mais quand on regarde vraiment les équipes. Je me dis, c'est pas possible en fait. Le Milan est tellement sur le toit du monde à cette époque que je me dis, ils peuvent pas le faire. Et surtout que l'équipe qui gagne la Ligue des Champions en 93, elle est quand même moins flamboyante que celle qui a fait la finale de 91. C'est un peu plus laborieux dans le jeu. Très honnêtement, j'y croyais, mais sans plus. Pour moi, ça pouvait être qu'un exploit. Ça pouvait pas être autre
Et quand
chose.
Tu regardes les images, tu te rends compte que quand tu regardes un peu le match, tu te rends compte que en fait, Milan a, je sais pas, été complètement anéanti. Enfin, Marseille a pas si mal joué que ça.
La première mi-temps, ils prennent le bouillon quand même.
Ouais.
Si Van Basten il joue pas sur une jambe, ça peut vraiment faire mal, quoi.
Ah, c'est ce que dit Tapie. Hein. Tapie dit, on gagne ce match parce que Van Basten est sur une jambe. Et c'est vrai que le fait est que Papin est sur le banc, Gullit est en tribune, Savicevic et Boban. Enfin voilà, il y avait quand même un certain. À l'époque, il y avait déjà certains étrangers, mais comme il y avait la règle des trois étrangers, il fallait faire très très attention. Moi, je pense aussi que là-dessus, Capello a peut-être pas forcément eu le nez creux de titulariser Marco Van Basten d'emblée, même si c'était un joueur magnifique. C'était son dernier match, hein. C'est le dernier match de sa carrière, ça faisait un an qu'il n'avait pas joué. Est-ce qu'avec un Jean-Pierre Papin les cartes n'auraient pas été rebattues? Moi je pense que oui, parce que Papin il aurait certainement tout donné. Manu?
Bah moi le match marquant, alors c'est la finale perdue en 91. Alors pas que je sois content que d'une défaite d'un club français, mais à l'époque il y avait un tel engouement sur l'épopée de Marseille en finale que bah, ça m'a fait un peu rire de voir, parce qu'il n'y a qu'en France où on est content, on doit tous être derrière des clubs français quand ils arrivent en finale. Je ne suis pas sûr qu'en Allemagne les mecs de Dortmund ils soient contents quand le Bayern gagne la finale une Ligue des Champions. Donc moi ça m'a fait rire.
Bayern, c'est d'ailleurs le Bayern qui joue contre l'Étoile Rouge de Belgrade en demi-finale de la Ligue des Champions.
Et du coup, c'était marrant parce qu'il y avait des fans de Marseille, et puis d'arriver le lendemain matin au collège et de les voir sur leur mobylette en train de pleurer, ça m'avait fait rire de distribuer des Kleenex.
Vous en souvenez de ce match, les gars?
Ouais, je m'en souviens bien.
Pas
moi.
Tant que ça, la finale perdue.
Je m'en souviens très bien. Donc là où je suis pas d'accord avec Manu, c'est sur l'engouement autour de l'OM. On a une vague verte en 76. Avec Saint-Etienne, et ce qui a été fort aussi avec Tapie, c'est qu'il y a une vague blanche aussi. On se rappelle, nous on a grandi du côté d'Orléans, et des maillots de Marseille on en voyait tout le temps aussi. C'est les maillots qui se vendaient le plus en France, et je crois que ça a été longtemps le cas. On était sevrés d'exploits football au niveau des clubs en Europe. Je trouve tout à fait normal que ça ait suscité de l'émotion et de l'engouement autour de de cette finale. Après, sur le match en lui-même, je dirais qu'il y a eu à la fois un non-match. Il y a eu un non-match pour plusieurs choses. Ils sortent le grand Milan AC en quart de finale. Et je pense qu'il y a une forme d'excès de confiance. Ça me paraît assez clair. Je pense qu'ils sont aussi assez fatigués de leur saison. Et puis, on parlait tout à l'heure de Stojkovic et les joueurs de l'Étoile Rouge. Et il y avait des sacrés joueurs. Hein, si on se rappelle, c'était dingue.
Stojkovic, Prozineski, Savicevic, Biniš, ouais. Darko Panchev.
Ouais, quand tu regardes la liste des joueurs, tu prends peur.
Belonedic, qui était un libéro absolument magnifique. Régal, ce joueur.
J'adorais ce joueur. Et le fait d'avoir vu Stojkovic sur le banc, ça les a rassurés. Et eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Parce que, à mon sens, la victoire était plus belle en 91 qu'en 93.
Mais les pieds étaient cristallisés. Hein. Moi, j'ai eu le sentiment qu'en fait, finalement, c'est une équipe qui s'est mis énormément de pression et qui n'a pas joué cette finale. Alors que l'OM, on sait que c'est une équipe qui... jouaient, hein, ils étaient. Ça m'a un peu rappelé, vous savez, le Benfica, le match retour de la demi-finale face au Benfica, la fameuse main de Vata. Le match aller est un match, mais hyper spectaculaire.
Ah ouais, c'est super beau.
Moi, ce match, c'est un peu comme le film Les Bronzés. Chaque fois, je commence à regarder. Je dis, bon, j'ai regardé 2 minutes et puis je vais faire autre chose. Mais non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et bien, quand je regarde ce match, Marseille-Benfica, c'est pareil. C'est extrêmement spectaculaire. Ça va d'un but à l'autre. C'est vraiment, en termes d'intensité, extrêmement fort. Mais au match retour, les Marseillais ont été un peu cristallisés par l'enjeu. On fait quoi? On attaque? On défend? Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, je pense qu'ils ont un peu dénaturé la nature même de qu'ils sont, c'est-à-dire une équipe qui va droit au but et qui est offensive.
Il y a aussi, peut-être la stratégie de jouer le match nul, si tu veux, ce qui a peut-être été ce que nous, on ne sait pas faire. Enfin, en France, généralement...
Je te rejoins, Fabien, mais il y a un élément super important, c'est Castaneda dans les buts.
Bien sûr. Si on
se rappelle, oui. On a Gaëtan Huard qui se blesse assez durement. Je crois qu'il se casse la jambe, si je me trompe pas.
Il se casse la jambe.
Ouais, oui. C'est ça. Et donc, c'est Jean Castaneda qui se retrouve dans les buts, qui est le deuxième ou troisième gardien. Et bon, il est sur la fin de sa carrière. C'est pas l'assurance
tout risque,
hein, tout simplement. Et là, du coup, ils savent pas s'ils doivent attaquer ou défendre, conserver l'avantage ou pas, parce qu'ils savent que derrière eux, il n'y a pas le dernier rempart. Voilà. Et donc, ça amène de la fébrilité et ça a forcément joué dans l'histoire de ce match.
Mais pour aller plus loin dans ton propos, Francky, ça va même au-delà, puisqu'à l'époque, Tapie prend un autre gardien qui s'appelle Rousseau.
Oui.
Qui est un bon gardien, hein, qui avait des tenues multicolores. C'est un peu un gardien à la Olmeta. Mais c'était pas Pascal Olmeta, mais c'était un bon gardien. Et donc, Rousseau joue les matchs de championnat et arrivé près de l'échéance, c'est Castaneda qui va arriver dans le but. Et il y a un match face à Brest. Et face à Brest, Cabanias, un, lui met une lucarne, mais alors magistrale, et deux, Castaneda, quelque part, fait une boulette, il donne presque le but au Brestois. Et oui, ils sont arrivés avec cette fébrilité, et en plus, on en parlait quand on préparait l'émission avec Francky, la défense centrale, c'est Moser, Sauzé. Et tu as déjà un gardien qui est en souffrance, avec un Franck Sauzé qui n'est pas forcément un défenseur de métier. Et d'ailleurs, l'année d'après, ça ne trompe pas, ils vont chercher Casoni et Boli. Donc vraiment, là aussi, Tapie, il a ce petit coup d'avance qui est de dire « Je veux faire vraiment une grosse cylindrée. » Francky, tu n'as pas dit ton moment important.
Moi, c'était surtout la demi-finale contre Benfica, le match aller. Et puis, allez, pour élargir un petit peu, je vais vous parler des Rangers contre l'OM en 92-93. C'est pas, en soi un match de légende, mais moi, il m'avait beaucoup marqué parce que ça se jouait en Écosse, à Ibrox Park, sous la pluie. C'était un match couperet. L'OM gagne 2-0, puis les Rangers reviennent à 2-2. Je m'étais planté devant ce match et moi, ça m'avait vraiment plu. Mais voilà, c'est pas...
Le souvenir que j'ai, c'est la partie de Barthez.
Oui.
Qui fait vraiment une partie de gardien anglais, quoi.
C'est ça, ouais, il se fait vraiment rentrer dedans, quoi. Ouais. Il se fait rentrer dedans et t'avais les deux attaquants, Rudy Voller et Boxich, qui faisaient tout, quoi. Enfin, au niveau offensif, c'était impressionnant, tous les deux.
Ah, ils avaient trouvé le bon complément. Bah, moi, je pensais que vous alliez parler du titre marquant de l'OM, qui est la Coupe de France en 89. 4-3 contre Monaco, 3 buts de Jean-Pierre Papin, la bise à François Mitterrand. C'était ce match-là, il est impressionnant. Et Papin, Papin, là, pour le coup, lui, il marche sur l'eau, quoi.
Il est chaud patate, le gars.
Alors, on a établi notre équipe type de l'OM. Bon, c'est notre équipe type de l'OM des années tapis. On ne revendique rien du tout. Ne commencez pas à mettre en dessous « et machin, pourquoi tu ne l'as pas mis ?» et « un tel et un tel ». C'est notre équipe.
Il y en a
elle
plein,
n'engage
plein
que nous. Alors nous, on a mis Olmeta dans les buts.
Ouais, on est d'accord. Bon. Même si on peut l'avouer qu'il y a eu discussion avec Joseph-Antoine Bell.
Ouais, et il n'y a pas eu discussion avec Castaneda. Non, je plaisante.
Non.
Il n'y a pas eu discussion avec Fabien Barthez.
Non, un petit peu Barthez, mais ouais. Et Olmeta.
Olmeta.
C'est bon, plus fantasque.
À droite, je crois qu'on a quasiment été tous unanimes.
Oui. Ouais.
Manuel Amoros.
Ouais, même si moi j'ai cité Jocelyn Angloma,
ouais.
que je trouvais super comme joueur, quoi.
Côté gauche, on a mis Dimeco. Je crois que là, on a tous été d'accord pour dire qu'il méritait bien sa place. On a une défense centrale qui est Moser Boli.
Ouais, elle est assez emblématique des années tapis quand même.
Ouais. On aurait pu mettre aussi Karl-Heinz Forster, qui est un nom qui a été évoqué. On n'a pas évoqué Marcel Desailly, mais on aurait pu. En milieu défensif, on a mis deux milieux défensifs. On a mis Pardo et Deschamps.
Ouais. Bon,
on a eu...
hésité avec Germain.
Ouais, Bruno Germain. On a eu Gentilgana aussi. On a parlé de Sauzé aussi, Franck Sauzé. Mais finalement, ouais, c'est Pardo et Didier Deschamps. Milieu droit, Weddel. Là, je crois que...
On valide.
Il a été unanime. Ouais. Milieu gauche, Abedi Pelé. Lui aussi, il est passé haut la main. Bon, devant, en neuf, JPP, là, je crois qu'on était tous d'accord.
Pareil, ouais.
Et devant, bon, on a eu... on a parlé de Francescoli, on aurait pu parler de voleur.
Ouais.
Moi, j'ai évoqué Klaus Allofs.
Ouais.
Mais
vrai.
Finalement, on a eu Alain Boxis.
Ouais.
On n'a pas mis d'entraîneur.
Ah oui, c'est Götals. Vrai.
Götals.
Ouais, moi, je partirais sur Götals.
Götals Gili, je pense.
Voilà. Hein, allez, on va faire un duo Götals Gili.
Main dans la main.
Ben, c'est un peu les mêmes. Hein, c'est un peu les mêmes.
Je me pose une question comme ça. Quel joueur vous auriez aimé voir à l'OM de la grande époque?
Van Basten.
Moi, il y en a deux.
Celui qui a été annoncé déjà.
Non, moi, c'était. Je me suis toujours dit que si. Si Tapi l'avait fait, il aurait fait un coup énorme, médiatiquement et au niveau du cœur des Français, c'était Michel Platini.
Ah ouais,
je me suis toujours,
on n'y pense pas, mais...
Ouais, parce que Michel Platini, c'est quand même l'idole, l'idole des Français, en tout cas dans le football. Et je me suis toujours dit, s'il arrive à le faire venir à Marseille, là, c'est vraiment un coup très très fort.
Il a une maison à Cassis,
peut-être, ça je sais pas. Et il y a un deuxième joueur, mais c'est plus pour le côté fantasque, c'était Paul Gascoigne.
Je te l'ai volé.
Désolé.
Non, tu me l'as volé. Mais je me permets de prendre la balle au bon, parce qu'en fait, en 92, on parle d'un joueur milieu défensif, et à ce moment-là, ça spécule beaucoup. Et c'est l'arrivée en fait de Trevor Stephen. Et là, je suis hyper déçu parce que il y a énormément de noms qui circulent et on parle de Trevor Stephen qui est un joueur que je connais, mais honnêtement, je me dis ouais, mais what else?
Ouais.
Et Gascoigne, j'ai l'impression que lui, il aurait pu amener cette touche de fantaisie. C'était un très bon footballeur, ouais, mais
c'était pas gérable. Hein.
Et ben, je me dis qu'avec Waddle, ça aurait peut-être pu faire quelque chose de pas mal. D'avoir un peu un grand frère comme ça qui l'accompagne, ça aurait pu l'aider. Parce que d'aller à la Lazio, il est parti, il était un peu livré à lui-même. Peut-être qu'avec Chris Waddles, les choses auraient été un peu plus faciles. Vous pensiez à un autre joueur?
Maradona, comme je disais tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Annoncé, Maradona, ça aurait été pas mal aussi.
Moi, j'ai pensé à David Ginola, qui a failli signer à l'Olympique de Marseille. Mais ça s'est joué d'un cheveu qui ne signe pas. C'est lui qui demande de signer absolument à l'Olympique de Marseille. Je crois que c'est après l'épisode Matra. Mais j'aurais bien aimé le voir parce que Waddle d'un côté, Ginola de l'autre. Ça aurait
c'est avant la Bulgarie ou après la Bulgarie?
Ah non, c'est bien avant.
C'est bien avant, c'est bien avant.
Bien avant.
Ça va alors.
Qu'est-ce qui reste des années tapis, les gars? Qu'est-ce que vous gardez ou qu'est-ce qui reste de ces années-là?
Alors pour moi, ce qui reste, c'est le rêve. Il a amené du rêve non seulement aux supporters marseillais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a vraiment fait ce qu'il avait dit, mais c'est aussi le rêve, je dirais, des supporters du football en France. Il a quand même amené un club à briller sur la scène européenne et tout était possible. Il a aussi, je trouve, amené quelque chose de différent dans le football et il avait raison, le football c'est un spectacle.
Ouais, ça, il a ramené. Il a ramené le côté spectacle, le show. Il a été très fort dans ses choix. Il avait de grosses ambitions qu'il a réussi à mettre en place, ce qui n'est pas toujours évident. Il a su s'entourer de très bons, comme on disait même au début, au niveau des directeurs sportifs avec Michel Hidalgo. Il a toujours trouvé les bonnes personnes. Donc, c'était vraiment un homme charismatique.
À l'image, donc, vu que on parle de tapis, du rêve. Du rêve, une belle épopée du football français et il a contribué effectivement à faire évoluer un petit peu notre championnat de première division avec ses pseudo-rivalités avec Paris, avec l'essai d'avoir un petit peu d'adversité au sein du championnat. Donc je dirais du rêve et une belle épopée. Ouais.
Et moi je dirais la communication, c'est un homme qui, moi je pourrais l'écouter pendant des heures. Je trouve qu'il a une communication qui est extrêmement belle. Et en plus de ça, il a un peu ce côté, une belle communication, c'est-à-dire je suis en costume, je m'exprime bien, avec ce côté très franchouillard. Et je crois qu'en fait, c'est ça, Tapie, il a compris aussi l'animal médiatique qu'il était. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il s'est opposé en politique à Jean-Marie Le Pen alors que personne ne voulait le faire. Je pense que c'était cette capacité en communication qui était la sienne de pouvoir faire passer des messages. Et là, il était extrêmement fort. Il était extrêmement fort. C'était nos années tapis. Nos belles années tapis, ça nous rappelle nos belles années, l'année où j'avais le maillot de l'OM et je me prenais pour Waddle, l'année où Francky se prenait pour Dimeco, Fabien pour Papin et Manu pour Paolo Futre. C'était des belles années, c'était nos années tapis, évidemment, on voulait aussi lui rendre hommage et dire qu'en dépit de tout ce qui se passe, on est tous, je crois, très admiratifs du combat qui est le sien et on a envie de lui dire Bernard, lâche pas. Et face à la maladie, tu es un homme et nous, on est avec toi. Et encore merci de nous avoir fait rêver.
Voilà, allez, merci.
Allez, conclusion.
Je vous souhaite
salut à tous.
Une très bonne soirée. Merci. On vous embrasse et encore merci à Ulysio pour la musique qui déchire.
Merci.
Bonne soirée.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.